Dis, à quoi tu penses? Ça m'inquiète. Je ne sais pas lire dans tes pensées. J'ai mille idées qui passent par ma tête. Je ne t'ai pas écouté. Excuse-moi. J'étais perdu dans mes pensées. Désolé. J'ai pas pu continuer. Je me suis laissé envahir par mes pensées. Oh là là, j'ai les idées noires. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. Si vous réfléchissez à votre vie, je pense que nous avons tous prononcé ces phrases à un moment ou à un autre. Parfois machinalement, parfois quand même avec une réelle inquiétude. Une sorte de contrariété ou peut-être quand même une forme d'impuissance. Le titre de la prédication, c'est pas un mot trop fort, le combat dans les pensées. Et je voudrais commencer ce message en partant de nous, de notre quotidien, de nos faiblesses, de nos manques. Et ensuite seulement éclairer cette partie de nous. Par la parole. J'ai voulu m'attarder sur quatre types de pensées. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais celles-ci, ce sont des groupes de pensées qui me sont venues sans réfléchir, spontanément. Il y a les pensées de distraction. Je les appelle un peu les météorites. Du genre, lundi, les vacances sont finies. Facebook m'appelle. J'ai chaud. Non, j'ai très chaud. Quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? T'as vu sa tenue, c'est moche. Hein? Des petites pensées insidieuses qui nous détournent de l'essentiel, qui nous emmènent ailleurs, sans qu'on s'en rende compte vraiment. Elles sont souvent anodines, mais parfois, elles produisent leur petit effet. C'est-à-dire, pour le dire dans une bête phrase, tu n'es plus là où tu étais. La pensée de distraction m'a emmené ailleurs. Il y a une autre sorte de pensée, ce sont les pensées mensongères. On l'a dit souvent, l'ennemi nous guette et essaie de prendre le contrôle de nous-mêmes. Et souvent, c'est par ce type de pensée qu'il y arrive. Ces pensées ne reposent souvent sur rien, sur aucune base, mais elles détruisent. Je vais vous en citer quelques-unes. Je pense que vous allez vous y reconnaître comme moi je m'y suis reconnu. Tu n'y arriveras pas. Ça, je ne saurais jamais le faire. Moi, c'est dans le bricolage. Je suis vraiment trop crevé. Je vais pas y aller. Je sais pas dessiner. Parler en public? Non, jamais. Trouver un travail? Impossible. Impossible. Toutes les portes se ferment. Rencontrer l'homme de ma vie? Ah non, non, non. On m'a oublié en route sur ce coup-là. Etc. 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 Un autre type de pensée, ce sont des pensées qui viennent de notre interprétation. Et ça s'est développé de manière vraiment exponentielle ces derniers temps avec les réseaux sociaux. Je raconte une petite histoire, plus ou moins comique, mais l'important c'est plus ou moins. Petit message. Salut les potes. Je pars en vacances avec ma petite famille. 3 points de suspension. Hâte de vous revoir le 15 pour la finale. 3 points de suspension. Tout le message est, vous l'avez compris, dans les points de suspension. Parce que l'épouse découvre le message de son mari. Et qu'est-ce qu'elle pense? Ah ben oui, on voit où sont tes priorités. C'est chouette les vacances, ça va être enthousiasmant. Tes potes, c'est plus important que nous. Le foot, c'est plus important que les 15 jours qu'on va passer enfin ensemble. Le mari se retrouve tout désemparé par ces points de suspension. Peut-être c'était un acte manqué. Peut-être une simple maladresse. Ou tout simplement, ça voulait rien dire. Mais combien l'interprétation fait mal. On a tous en tête une histoire de ce jour, de ce genre, pardon, où on reçoit un SMS. Mais un SMS, c'est un écrit sur un écran. Mais nous, on y met des sentiments, on y met des émotions. Si vous recevez un mail, parfois un peu bizarre, vous mettez même un ton de voix, comme si l'ordinateur sortait les mots et vous les disait avec le ton de voix qui correspond à l'état émotionnel où vous êtes. Ne parlons pas de la mode des buzz sur Internet et de ces incroyables petites phrases qui bouleversent parfois une vie. Combien de conflits inutiles, combien de colères, parfois même combien de graves décisions ont été prises suite à un SMS mal interprété. La quatrième sorte, c'est ce que j'ai appelé les pensées nuisibles, les pensées méchantes, les pensées mauvaises. C'est un cran au-dessus. Et pourtant, je pense qu'on les a tous eues à un moment donné de notre vie. C'est des pensées qui nous viennent où on veut blesser, où on n'est plus du tout dans une démarche d'amour. On met là-dedans la jalousie, l'envie, le jugement. C'est plutôt pour moi des cadeaux empoisonnés, ces pensées-là. Et elles nous embarquent très loin de la parole de Dieu. Ce sont des pensées qui mettent notre cœur et notre esprit à feu et à sang. Parce que le combat dans les pensées, c'est d'abord bien savoir qui est l'adversaire. On ne peut pas gagner si on ne connaît pas son adversaire. Et je vous ai donné 4 grandes pistes pour dire, voilà, ce sont ces 4 sortes que je dois vaincre. Quand on combat, on doit connaître ses forces et on doit connaître ses faiblesses. Et ces pensées qui, sans conteste, je pense on ne peut pas aller contre, elles nous influencent. Et elles ouvrent certaines portes. La porte de l'inquiétude. La porte de l'inquiétude. La porte de la colère. La porte de la perte de confiance en soi. Celle de l'absence d'empathie. On ne tient pas compte de l'autre. Ou encore celle du besoin de pardon dont on a parlé ces dernières semaines. Ces conséquences, ces portes qui arrivent dans nos vies, elles nous conduisent toutes au même endroit pour moi. Elles reviennent vers nous-mêmes. Elles nous centrent, elles nous placent comme centre du monde. Parce que je suis inquiet, je suis en colère. On ne me pardonne pas. Une autre dimension de ce combat, c'est qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que le combat en vaut la peine? On parle de victoire, de défaite. Mais en fait, pour nous, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi le risque? Malheureusement, ces risques-là ne sont pas anodins. La distance avec Dieu, la rupture momentanée de sa présence, on ne le sent plus. On crie, on appelle, pas de réponse. Il y a aussi une brèche dans notre identité. Ce n'est plus Dieu qui définit notre identité, mais nos pensées. Et ça, c'est une brèche, un trou par lequel l'ennemi va nous surprendre. C'est aussi une cassure dans l'amour. Parce que quand on est omnubilé par ses propres pensées, on n'a pas le regard vers l'autre, parce qu'on ramène tout à soi. Et l'autre, peut-être, sur lequel je vais m'attarder un peu plus, c'est une routine de fonctionnement. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. On peut s'étendre sur tous les autres, mais j'aimerais bien parler un peu de ça, les routines. Une routine apparaît quand on ne fait pas attention. Quand on a mis en place certains mécanismes qui se retrouvent dans le même ordre. On l'a dit, je vais prendre l'exemple, quelqu'un vous critique. Ça arrive à tout le monde. Premier réflexe, je me retourne vers moi. On me critique. Je m'apitoie sur moi-même, quel dommage. Je reste assez de temps avec cet apitoiement pour que je me fasse voler ma joie. Ma joie s'en va. La critique d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un que vous avez rencontré, d'un article que vous avez lu dans la presse, d'un mot sur Facebook, vous vole votre joie. Peut-être je murmure contre Dieu. Du bout des lèvres, peut-être. Mais je lis moins. Je prie moins. Pourquoi je prierais? Parce qu'il ne répond pas. Parce qu'il ne trouve pas de solution à mon problème. Et puis surtout, il ne me donne pas la réponse que moi je veux. Dieu ne me comprend pas, parce que moi je veux ça. C'est très dangereux ces routines de raisonnement. C'est très dangereux. Parce que c'est comme si on prenait la place de Dieu. Je me suis attardé aussi sur quelques expressions. Être perdu dans ses pensées. Chacun a sa petite définition de cette expression-là. Ah oui, il est toujours dans la lune. Hein, il pense, on ne sait pas où il est, c'est un artiste. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être perdu dans mes pensées? Est-ce que parce que vous ne savez plus où aller? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout essayé et vous êtes toujours au même point? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Est-ce que vous ne voyez pas le chemin, le seul que vous, vous acceptez de prendre? D'ici là, il m'est fermé. Est-ce que pour vous, être perdu dans ses pensées, c'est être foutu? Est-ce que vous pensez que jamais vous allez gagner? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour gagner le match contre ses pensées, pour emporter le combat, il faut savoir où on est. Il faut savoir où on est, objectivement. Bien définir la place où on est. Et si on est perdu, il faut le savoir. Avant de commencer le cœur du message, je voulais revenir un tout petit peu sur une émotion particulière qui vient souvent se greffer sur nos pensées. On l'a évoqué un peu dans le PEP, dans la dernière réunion. C'est l'inquiétude. Quand on ne maîtrise pas ses pensées, on s'inquiète. Hein, Stéphane et Clémence nous partageaient tout à l'heure qu'ils avaient eu peur de ne pas avoir leur visa. Mais s'ils s'étaient laissés emporter par l'inquiétude, ils n'auraient pas eu le visa. Il faut une certaine maîtrise de ses pensées pour chasser l'inquiétude. C'est indiscutablement le plus grand voleur de joie. Et rares, je pense, sont les personnes qui peuvent dire objectivement, là où je suis, je m'inquiète jamais. Pourtant, Jésus nous a montré, expliqué, détaillé, enseigné. Ne t'inquiète pas. Dans le texte que Laurent nous proposait d'Ésaïe, ne t'inquiète pas. Paul nous a laissé des lettres édifiantes à ce sujet. Mais nous, nous restons humains, fragiles. Combattre nos pensées, ça revient aussi à lutter contre l'inquiétude. En effet, si notre cœur et notre esprit ne sont pas apaisés, notre quotidien va en subir les conséquences. On va vraiment être affecté dans sa vie. J'ai choisi 5 versets pour me baser sur les solutions que la parole nous donne pour vaincre ces pensées. Je ne veux pas vous laisser sans ce que la parole dit. Et c'est très explicite. Et j'ai trouvé ces versets extraordinaires, encore plus extraordinaires, pourtant je les ai lus beaucoup de fois. Parce qu'en 5 versets, tout y est. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Je relis ce verset, c'est une des clés. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà la base du message. Pour moi, dans les livres que j'ai lus à ce propos, dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, il y a 3 points. Et dans la lettre aux Philippiens, ces 3 points qui sont donc dans le chapitre 4 sont issus des 3 premiers chapitres. Ça paraît tellement simple, et vous allez voir que c'est très impactant dans le concret de nos vies. Il s'agit d'avoir une prière juste, une pensée juste, et une vie juste. Dans les versets 6 et 7, Paul nous donne les 3 caractéristiques qui devraient constituer une prière juste. Une prière juste, ce n'est pas qu'elle pourrait être fausse, c'est qu'elle comporte 3 parties. L'adoration, la supplication et l'action de grâce. L'adoration, le premier. Comment réagissons-nous quand nous avons de mauvaises pensées, entre guillemets? Souvent, on se précipite vers Dieu, à la hâte, sans vraiment faire attention à ce qu'on dit, limite en murmurant, limite en disant « Mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu mets ça dans ma tête ?» Paul nous prie de nous approcher de Dieu dans le calme et dans le respect. Et c'est certainement pas facile. Dans certaines circonstances, c'est très compliqué. Mais vaincre ses pensées, gagner ce combat, exige de la discipline. C'est un combat qui coûte et qui parfois coûte très cher. Laurence le disait tout à l'heure et très souvent les groupes nous emmènent à cet endroit. Plaçons-nous dans cette attitude humble devant la grandeur et la majesté de Dieu. Donc devant des pensées qui vous obsèdent, placez-vous dans le calme, dans le respect, et adorons la grandeur et la majesté de Dieu. L'adoration, ce n'est pas un moment pour passer le temps. C'est une arme très redoutable. La deuxième partie, c'est la supplication. Prier, on en parle très souvent. Prier pour plusieurs, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et prier, dans tout ce que je lis maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est vraiment une action. Alors peut-être que dans ce combat, vous avez un tout, là, on va recevoir des armes extraordinaires. Non. Mais cette arme, la prière, c'est une arme clé. Mais il faut bien en connaître le mode d'emploi. Alors, c'est idiot, évidemment, je ne vais pas vous dire combien de temps il faut prier. Où vous devez prier? Quel mot vous devez utiliser? Mais non. Non. Ça n'a aucun sens. Mais il y a deux choses qui sont essentielles. Il faut prier avec un cœur sincère. La deuxième chose, c'est l'intensité de vos mots. Pas qu'il faut des mots recherchés, non. Il faut que vous ayez en vous une intensité spirituelle. Seigneur, c'est à toi que je parle. Je viens près de toi. Quand ces deux conditions sont réunies, Dieu les entend, nos prières. Il y répond. Mais il y répond quand il veut. Et surtout, de la manière dont il veut. Et ça, nous devons l'accepter. Parce qu'il est Dieu. Et nous ne sommes que des hommes. La troisième étape, c'est celle de l'action de grâce. Évidemment, vous allez me dire, évidemment, il faut remercier le Seigneur. Mais j'ai une petite phrase qui m'a beaucoup interpellé. Pourtant, elle paraît un peu bête, je vais dire, ou enfantine. Dieu aime qu'on lui dise merci. Et j'ai dit, Seigneur, je ne le fais tellement pas assez. Pas assez. Il faut qu'on change notre regard sur les choses. Il faut qu'on change nos regards sur nos pensées. Le monde essaye de nous diriger. Et il essaie, quand on prend l'ensemble du monde, hein, je ne parle pas forcément de son voisin, mais de tout ce qu'on lit dans les journaux, qu'on voit sur Internet, qu'on entend à la télévision, les matraquages des publicités. L'accent, il est mis sur une chose, ce qu'on n'a pas encore. On est pisté par Internet. Et tout ce que vous avez cherché, on vous donne la solution. Mais si vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas. Mais on essaie que vous l'achetiez. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si nous pouvions mettre toute notre attention, toute notre énergie, toute notre vie sur le trésor que nous avons et pas sur le petit peu de choses qu'on a, est-ce que ce ne serait pas plus facile de s'en contenter du petit peu de choses? Est-ce que ce ne serait pas plus facile que si on a la chance d'en avoir plus, on puisse le donner, le partager, plutôt que de le garder? C'est ça l'action de grâce. Et souvent, on va tellement trop vite. Et que quand on reçoit la réponse du Seigneur, directement, une autre pensée vient, un autre problème surgit, et on recommence. Mais on oublie souvent l'étape de l'action de grâce. Cette dia que vous voyez maintenant, c'est en fait presque un résumé de la lettre aux Philippiens. Le titre de la lettre, c'est « Soyez joyeux ». sans refaire toute l'histoire ni tout le contexte, quand Paul écrit ça, réjouissez-vous. Il est enchaîné à un prisonnier. Il attend sa condamnation et il est vraisemblable que ce sera la peine capitale. Et il nous écrit, réjouissez-vous. C'est interpellant, non? Peut-être que nous avons besoin, pour pouvoir entrer dans cette dynamique de joie, quelles que soient les circonstances. Il y a trois choses. Si je reprends l'étape de l'adoration, il faut un cœur résolu, déterminé. I want, je veux. C'est une condition. La deuxième chose, pour pouvoir supplier le Seigneur, pour pouvoir le prier, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité, de la vraie, l'authentique, la sincère humilité. Et pour remercier le Seigneur, nous avons besoin d'élever notre spiritualité pour rentrer dans le prisme de Dieu. Souvent, on passe par son propre prisme, je l'expliquerai un peu plus loin. C'est un peu amusant dans toutes les paroles que Dan a données. Plusieurs, je les ai réécoutées dans mes amis ou mes proches. Et par un hasard, je me suis penché sur le livre de Daniel. Et je suis tombé sur ces versets où tout y est. Daniel est un haut personnage, conseiller du roi. Et le roi, par toute une série de circonstances, amène un décret qui interdit de prier l'Éternel. Et voilà ce que Daniel fait. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Daniel adorait, priait, remerciait, et il jouait avec sa vie. Pas d'inquiétude. Il ne faut pas qu'on pense que ce sont des circonstances extrêmes et qu'il faut être dans ces circonstances extrêmes pour suivre ce chemin-là. Non, dans chaque petite épreuve que nous avons, engageons-nous dans la prière juste. En conclusion sur ce point qui est le plus long, j'aimerais juste vous lire quelques mots du petit livre, vous savez, Le pain quotidien. Hein, il y a une histoire chaque jour avec quelques versets. Et au milieu, à la fin du mois de juin, il y a quelques pages qui parlent de la prière juste. La prière est le véhicule que notre Père emploie pour nous conduire dans de nouveaux lieux où règne la grâce. En priant, nous nous retirons de bon gré du siège du conducteur. Dieu nous attire alors plus près de lui et nous murmure sa volonté. Le clin d'œil de Dieu. Il nous conduira ainsi dans la direction qu'il veut que nous empruntions. Cette phrase, je l'ai trouvée ailleurs. Prier, c'est redonner à Dieu le droit d'être Dieu dans notre vie. Quand nous sommes envahis par nos pensées, Dieu n'a pas le droit d'être Dieu dans notre vie. Mais c'est nous qui l'en empêchons. La deuxième, donc si vous vous rappelez les trois, il y a une prière juste, une pensée juste, une vie juste. Voilà, vous voyez sur la dia, en résumé, c'est ça qui devrait habiter nos pensées. Je vais les prendre l'un après l'autre. Ce qui est vrai. Habitons nos pensées de ce qui est vrai. Je lisais, 8% de nos inquiétudes sont réelles. Ce sont de réelles inquiétudes. 92% ne reposent donc pas sur la réalité. Ce sont soit des inquiétudes qui n'en sont pas, ce sont des fausses inquiétudes, ou ce sont des inquiétudes qui viennent de circonstances où on ne peut pas agir de toute façon. 92%. Ce qui est honorable, on pourrait le dire autrement, ce qui est digne de respect et ce qui est juste. On est envahi dans notre monde par des pensées qui nous viennent et qui ne méritent pas de respect. Ça ne signifie pas qu'il faut sortir du monde. On vit dans le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on vit dans le monde qu'on doit se plier au monde et qu'on doit se laisser influencer par des pensées qui nous amènent ailleurs. Ces choses ne méritent pas qu'on s'y arrête. Ce qui est pur et aimable. Aimable, ce serait plutôt pris dans le sens qui mérite l'approbation. Tout ce qui est juste au niveau moral mérite d'être aimé, approuvé. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je pense qu'on doit le faire. Je pourrais développer ce point vraiment de manière longue. Mais je pense que chacun dans son contexte est confronté à des types de pensées. Vous vivez dans le sport, il y a certaines caractéristiques de pensée dans ce monde-là. Vous êtes dans le monde des finances, il y a d'autres pensées qui viennent dans ce monde-là. Vraiment, chaque milieu a ses propres modes de fonctionnement. Et nous devons bien, vraiment, aussi dans certains pays. Certains pays ont certaines caractéristiques et certains modes de pensée. Ce n'est pas la même chose de vivre aux États-Unis qu'en Islande. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes règles. Je ne sais pas pourquoi je dis l'Islande. Hein. J'aime bien ce pays-là, peut-être, je n'en sais rien. Jamais été. Un peu bête. Dernière chose. Ce qui est vertueux et digne de louange. Je pense que ça, c'est une autre dimension importante. Paul nous enseigne ici d'éviter comme la peste des pensées qui nous démoralisent. Il y a certaines pensées qui reviennent et qui nous mettent par terre. J'aurais même tendance à dire, pas grave, si ça ne concerne que toi. Si tu ne te démoralises que toi. Mais malheureusement, si ces pensées qui te démoralisent influence tous ceux qui vivent à côté de toi, avec toi, alors le problème s'étend. Je pense que on doit toujours vouloir le mieux pour pouvoir recommander aux autres ce qui est mieux. Si on réussit à faire ça, je pense qu'on va économiser beaucoup d'énergie spirituelle. Parce que souvent, je pense que chacun d'entre nous, hein, moi le premier, on la gaspille. J'aime bien cette image avec les fleurs de pissenlit. Je pense que nos pensées parfois sont éphémères. Mais à un moment donné, on est quand même envahi par ces pensées. Et les fleurs de pissenlit, même si elles ne durent pas longtemps, elles s'envolent. Et elles vont fleurir ailleurs, pas longtemps non plus, jusqu'au moment où toute votre pelouse est envahie par les fleurs de pissenlit. Revenons à une pensée juste. Bloquons les pensées qui ne peuvent pas fleurir en nous. Bloquons-les. C'est un peu, j'avais l'image de faire un barrage. Empêcher-les de rentrer. Vous avez le pouvoir de les empêcher de rentrer. L'autre dit, je crois que les... J'ai pas tellement envie de parler parce que l'image parle d'elle-même. Sans toi, Dieu, où irais-je? Qu'est-ce que je serais devenu? C'est plutôt le tourbillon des pensées. Et nos pensées nous entraînent vers le bas si on ne les maîtrise pas. Dans la Bible, on parle beaucoup des pensées. Les versets que j'ai trouvés qui me plaisaient le mieux, qui me parlaient le mieux, sont de Isaïe 55, au verset 8 et 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. N'essayons pas de nous mettre sur le même plan de Dieu que Dieu. On est toujours trop petit, on est toujours trop court, il est toujours en avance. Un autre verset. Et je me suis rendu compte en le lisant, alors que, comme dit Laurent, je l'ai lu moins de fois que toi, mais je l'ai quand même lu assez bien, j'avais oublié une partie. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et moi, je me suis arrêté là. Mais il est aussi écrit, « Et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. On devrait le connaître par cœur, mais parfois, je parle pour moi ici, j'ai occulté cette partie de toute ma pensée. Le dernier point, c'est une vie juste. Je me suis beaucoup interrogé sur comment vous expliquer très concrètement ce que ça pourrait être une vie juste. Je voulais développer un aspect, peut-être un deuxième. Un vendredi de plénitude, le Seigneur m'a amené à parler des prismes. Donc des prismes, ce sont des formes géométriques, si vous voulez. Et dans cette image, des prismes, c'était des prismes creux. Et j'avais eu l'image de trois prismes. Le prisme de Dieu, le prisme de l'autre et son prisme à soi. Les problèmes arrivent presque tous quand on se trompe de prisme. Donc on se trompe dans l'ordre des prismes. Bien souvent, on réagit dans l'urgence. Les pensées nous amènent à réagir très vite et on ne passe pas par le prisme de Dieu. On le met après. Je vais d'abord faire et puis je vais aller prier devant Dieu. Je voulais parler de ça devant nos problèmes, mais aussi devant une autre petite chose. On a reçu tous des capacités, des dons. Personne n'a reçu les mêmes de la même quantité. On est tous uniques. Et vous pouvez lire les dons que vous avez reçus avec ce qui est écrit en vert ou avec ce qui est écrit dans les cases rouges. Ça dépend où vous mettez le curseur. On se rend bien compte que si tout ce qui fait notre richesse à nous, c'est un moyen pour nous élever, ou c'est un moyen pour servir. Si je viens ici en disant « Waouh, quelle vedette !» ou si je viens ici parce que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur et me donne la chance de le partager avec vous. Avant de commencer, j'étais vraiment pas bien avec la chaleur et, petit clin d'œil, Laetitia est venue prier à côté de moi. Et tout a changé. Tout a décalé. Merci de ton écoute. Ce n'est pas magique. C'est juste que on doit envisager ça par le prisme. Le fait de dire, voilà, je sers Dieu ou je m'élève, moi. Si vous dites, voilà, je suis là pour m'élever, vous passez par votre prisme. Si vous dites, je suis là pour servir, je passe par le prisme de Dieu. Et on est tous imparfaits. Et tous, on est dans le rouge à certains moments donnés. Juste, il faut essayer de le reconnaître et de changer. Dans le même ordre d'idée, est-ce que ces capacités que j'ai reçues, c'est pour moi une source de joie? Ou bien c'est une source de plainte de ce que je n'ai pas? Moi, je suis ça. Ah oui, mais lui, ou mais elle. Ah, moi, chanter, c'est non. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire la louange? Non. Je fais autre chose. Ça, je n'ai pas reçu le don. Tout simplement. Question de prisme. Je me plains, je passe par mon prisme. Je me réjouis de ce que j'ai, je passe par le prisme de Dieu. Et la conséquence du jeu entre ces deux prismes, c'est que soit vous vivez ça avec une grande reconnaissance, ou soit on vit ça avec une grande frustration. Je pense que c'est une bonne application de ce que c'est être, vivre une vie juste. C'est-à-dire une vie tournée dans le bon sens, dans le curseur vert. Je voulais finir par la paix de Dieu. Parce que ces trois choses doivent amener la paix. Et Paul nous ramène toujours à la parole. Hein, ce verset-là, je me rappelle, je l'ai lu deux fois tout à l'heure. La parole, il nous faut l'apprendre. Et puis la recevoir. Recevoir dans son cœur. Nous devons être capables de l'entendre, de la comprendre. Et enfin, et surtout, de l'accomplir, de la vivre. C'est une excellente chose, vraiment, que de connaître les faits que la Bible relate. C'est magnifique de dire, voilà, dans Philippiens, on parle de ça, dans Colossiens, on parle de ça, Matthieu 5, c'est ça, c'est magnifique. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Mais, c'est complètement à côté de la plaque. Si dans votre vie, vous ne la vivez pas. Alors, vous connaissez la Bible comme on connaît les maths ou qu'on connaît la grammaire latine. Si cette parole qu'on doit apprendre, qu'on doit recevoir, qu'on doit entendre, on ne la vit pas, on ne l'applique pas, si ce ne sont pas des vérités dans votre cœur, si ce n'est pas un style de vie, c'est un contre-témoignage. Et c'est pas si carré, évidemment, parce que personne n'est parfait, que tout le monde est en chemin, et que parfois on est complètement dans le bon sens, et parfois on est en marche arrière. Mais Paul, dans les circonstances où il était, nous donne un fabuleux message. Il enseignait la parole, mais surtout, il la vivait. J'ai écrit, mais je vais le dire quand même. Et nous? Et nous, où on est? Ça se termine, j'arrive à la conclusion. Je me dis, peut-être que quelques-uns ont été touchés par les armes. Quelqu'un Quelques-uns ont été touchés par « Ah oui, ça, j'y avais pas pensé » ou « Je l'avais pas compris comme ça ». Je pense que moi, la question que je me serais posée, « Oui, mais comment on sait si on a gagné ?» Comment on sait si la victoire sur les pensées, aujourd'hui, je l'ai gagnée ? Je pense que avoir la paix de Dieu en soi, c'est un bon signal. C'est un très bon signal. Quand ça se coud dans la vie, à l'extérieur de vous, mais que à l'intérieur, il y a une forme de tranquillité, une forme de sagesse, que l'intérieur de votre être est en paix, je pense que vous avez gagné. Je pense qu'on peut dire que c'est un signal de victoire. Ça ne va pas changer sans doute la réalité de votre vécu. Les circonstances ne vont pas tout à coup changer. Mais certainement, cela bouleverse la façon dont vous les vivez. Et le plus important, ça bouleverse la façon que les autres voient comment vous vivez. Ça, je pense que c'est le plus important, parce que je veux revenir à mes prismes. Le prisme de Dieu nous aide. C'est la seule façon d'être en paix. Mais avant de penser à vous, il y a les autres avant. Il y a les autres. Et si on peut traverser le désert, traverser les difficultés, en étant un témoignage de ce que Dieu fait en vous, de garder la paix. Waouh ! On a gagné. Avec Dieu. Je ne savais pas trop comment conclure, mais j'ai trouvé dans la parole quelques versets auxquels il faut rien ajouter. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Si nous combattons avec des armes humaines, nous perdons. Mais ces armes sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Une dernière dia peut-être pour vous laisser cette phrase. Une prière juste, une pensée juste, une vie juste sont les conditions pour que la paix de Dieu influence notre cœur et conduise notre marche avec lui. Amen.